Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, les dépenses militaires sont à la hausse dans le monde, dans l'OTAN et en Europe. L'Allemagne, avec 56 milliards ex aequo avec la France, se place juste derrière le Royaume-Uni. Mais Berlin a annoncé 100 milliards de dépenses supplémentaires pour moderniser la Bundeswehr, sous-équipée de 5e exportateur mondial. Le pays devrait donc remonter dans les classements et les industriels de l'armement qui ont déjà accéléré leur activité depuis l'annexion de la Crimée vont poursuivre leur expansion. C'est le reportage à Stuttgart et Munich de Léo Breuer-Potier.
Des tubes à couper, des barres d'aluminium à percer, à polir, puis à marquer, des ressorts et des boîtes en plastique. Chez Eckler encore, rien ne différencie fondamentalement ce fabricant d'armes d'une autre industrie. Sauf peut-être le test du produit fini.
On teste le tir semi-automatique, automatique, le déchargement et l'éjection des étuis.
Ça veut dire que chaque arme a tiré combien de coups pour être considérée comme prête ?
Au minimum, un chargeur complet.
Donc 30 coups. Dry sécheux, ça.
Genau.
Sur le site de Eckler & Koch, situé à une heure de route de Stuttgart, 950 salariés fabriquent des armes depuis 1949. Marco Zelliger est le responsable presse de l'entreprise.
Nous sommes un fabricant d'armes assez classique. Nous fabriquons des pistolets, des fusils d'assaut, des armes de soutien jusqu'aux lance-grenades. Nos clients sont les membres de l'OTAN, les pays européens et certains autres pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.
Le chiffre d'affaires de 290 millions d'euros l'année passée, dont 21 millions d'euros de bénéfices, s'explique par le fait que Eckler & Koch ne fournit pas seulement l'armée allemande. Le fabricant équipe beaucoup d'armées et de forces de sécurité européennes, du Portugal à la Norvège. Une position qui lui permet de constater l'accélération des commandes d'armes, et ce depuis plusieurs années.
Nous voyons depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et la présence russe dans le Donbass un besoin croissant d'armement pour nos clients qui sont membres de l'OTAN. Cela a eu des répercussions sur nos ventes ces dernières années. Entre-temps, la Lituanie et la Lettonie sont devenus nos clients, tout comme les armées françaises et norvégiennes. S'ajoutent à cela toutes les forces de l'OTAN qui passent ponctuellement des commandes pour leurs forces spéciales.
Avec ses ventes de missiles de croisière, missiles de défense, lance-missiles portatifs, MBDA Missile Systems, affiche une bonne santé financière, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2021 et un carnet de commandes qui déborde. Tout le monde achète, y compris l'armée allemande. Thomas Gottschild est le patron de MBDA Allemagne.
Je ne parlerai pas de réarmement. Actuellement, la Bundeswehr est équipée et approvisionnée. Il s'agit avant tout de moderniser son équipement, de la mettre à niveau face aux futurs défis qui l'attendent.
Une mise à niveau devenue urgente au vu de ce qu'il se passe en Ukraine. Les missiles russes qui tombent sur les villes ukrainiennes sont devenus une réalité et l'Allemagne se demande si elle serait en mesure de défendre son ciel si des missiles Iskander russes étaient tirés depuis Kaliningrad pour tomber sur Berlin.
Ce scénario de Kaliningrad auquel vous faites référence est un scénario, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Il est difficile de savoir lequel deviendra réalité dans le futur. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il va falloir développer la capacité de défense aérienne de l'Allemagne, non pas seulement avoir plus de missiles à disposition, mais aussi améliorer leurs capacités.
Et en termes de modernisation, MBDA fonde beaucoup d'espoir dans le SCAF, le projet européen d'avions de combat du futur. La France, l'Allemagne et l'Espagne y participent. Un projet dans lequel l'entreprise se charge de l'armement et d'un petit avion drone chargé de missions de reconnaissance et de guerre électronique.
Le SCAF est d'un intérêt stratégique pour toute l'Europe et pas seulement pour l'industrie européenne de la défense. Il concerne tous les États européens. C'est un outil qui va permettre aussi de maintenir notre souveraineté européenne. Et c'est pour cette raison que je suis persuadé que ce projet sera mené à terme.
Durant les dernières décennies, les projets d'armement ont souvent été considérés comme trop chers ou pas nécessaires. Et si dans la classe politique allemande, les plus critiques diront que ces dépenses sentent le sang, les industriels rétorquent que les temps ont changé. Marco Zelliger.
On ne
peut pas parler d'argent qui sente le sang. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Il s'agit de défendre nos sociétés libérales contre un agresseur qui est la Russie, malheureusement. Il s'agit de défendre nos États et nos citoyens. Il ne s'agit de rien d'autre.
Le chancelier Olaf Scholz parle de changement d'époque pour justifier les 2% d'augmentation du budget de la défense et l'enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros qui doit lui être attribuée. Mais ce changement d'époque est certainement présent aussi dans les esprits. Une majorité d'Allemands soutient ces nouvelles dépenses et l'exportation d'armes lourdes vers l'Ukraine.
Champion toute catégorie sur le continent européen devant la Russie avec 3,2% des dépenses militaires mondiales. Le Royaume-Uni est un acteur incontournable du soutien à l'Ukraine. On retrouve notre correspondante à Londres. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Le gouvernement de Boris Johnson a fourni des armes très rapidement à l'Ukraine dès le début du conflit.
Et oui, le Royaume-Uni a décidé de fournir des armes très rapidement et a plusieurs fois annoncé renouveler et renforcer ses livraisons. En tout, Londres a fourni plus de 10 000 armes à l'Ukraine, des missiles anti-chars, des missiles portatifs Starstreak notamment. Le pays a aussi annoncé une aide de 30 millions d'euros pour l'armée ukrainienne. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, l'armée britannique aidait aussi à entraîner les forces ukrainiennes sous le nom de l'opération Orbital. Donc le Royaume-Uni était déjà en lien avec le gouvernement de Kiev et au fait de ses besoins en termes d'équipement militaire.
Londres estime même occuper une place particulière, Marie, dans l'aide stratégique à l'Ukraine.
Absolument, la ministre des Affaires étrangères britannique, Liz Truss, avait dit le 8 mars au Parlement que le Royaume-Uni a été le premier pays européen à fournir une aide létale à l'Ukraine. Même tonalité grandiloquente lorsque Boris Johnson lui-même a déclaré à la Chambre des communes que son gouvernement menait le monde dans sa réponse à Vladimir Poutine, c'était le 19 avril dernier. Boris Johnson a aussi été le premier chef de gouvernement d'un pays du G7 à se rendre à Kiev et Zelensky lui-même a salué les efforts du Premier ministre britannique.
Merci Marie Billon à Londres. Et en Bulgarie, membre de l'OTAN, va-t-on aider Kiev, notamment avec des équipements soviétiques qui pourraient être utilisés facilement par l'armée ukrainienne ? Les explications depuis Sofia de Damien Vodenicharov.
La Bulgarie est le seul pays européen, avec la Hongrie, à refuser l'assistance militaire à l'Ukraine. Mais la décision du géant russe Gazprom de ne plus livrer de gaz à la Bulgarie pourrait faire bouger les choses, au risque de faire éclater la coalition au pouvoir. Car la Bulgarie pourrait jouer un rôle central dans le réarmement de l'Ukraine. Les vieux avions de chasse MiG-29 pourraient être directement opérationnels pour l'armée ukrainienne, mais ces avions de chasse soviétiques ne sont plus en état de voler, argumente le gouvernement bulgare. Sofia a d'ailleurs fait le choix de s'équiper avec du matériel américain et dépenser 1 milliard d'euros pour acheter 8 F-16, compatibles avec les missions de l'OTAN. D'autres commandes devraient suivre pour pouvoir participer aux missions conjointes et assurer la sécurité de son propre espace aérien. La question de la non-participation bulgare à l'effort de guerre ukrainien n'est peut-être qu'une question théorique. L'industrie de l'armement bulgare est en plein essor depuis une dizaine d'années, au menu des munitions, des armes de poing, des mitraillettes. Des contrats lucratifs ont été signés avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes. Et d'après l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, une partie de ces livraisons atterrirait en Ukraine de façon indirecte. Les armes seraient d'abord vendues à des sociétés américaines ou européennes qui les revendraient à leur tour à Kiev.
À noter que l'Europe va augmenter considérablement son aide militaire à la Moldavie, voisine de l'Ukraine, un pays déjà fragilisé par la région sécessionniste et russophone de Transnistrie, touchée par des explosions. Ce sont deux lettres dont on parle beaucoup en ce moment, les lettres Z et V arborées sur les chars ou taguées sur les murs en signe de ralliement aux troupes russes engagées dans la guerre en Ukraine. Des lettres controversées, les trois parlements des Pays-Baltes ont ainsi décidé d'interdire ces lettres dans l'espace public pour éviter les polémiques. C'est la chronique de Marielle Vitureau.
Le 1er avril dernier, la première ministre lituanienne publie un communiqué. À Panere, là où les Juifs de Vilnius ont été exterminés, un grand Z a été tagué sur le monument à leur mémoire. Quelques semaines plus tard, le Parlement lituanien interdit l'usage du Z, mais aussi du V, dans l'espace public, quand ces lettres sont le symbole de l'agression militaire russe. Mais que représentent-elles? Les explications de Nerius Maliukevičius, spécialiste des guerres de l'information à l'Institut de sciences politiques de Vilnius.
Comment ces lettres ont commencé à être utilisées? Pour moi, l'explication est très simple et très pratique. Ces lettres servent à marquer les différentes unités russes. C'est une inscription pour indiquer qu'il s'agit de matériel ami. Dans certains cas, les deux parties utilisent le même matériel hérité de l'époque soviétique. Ceux qui sont responsables de la propagande ont donc décidé par la suite de les utiliser pour leur campagne.
L'usage de ces lettres V et Z exprime un soutien populaire à l'offensive russe. Certains disent aussi que le Z vaut pour Zapadebu, vers la victoire, ou pour Zapad, qui signifie l'ouest en russe. Le V pourrait faire penser à victoire ou victory en anglais. Les parlements lituaniens, lettons et estoniens ont donc légiféré sur leur usage. Le député letton Artos Kaiminš est le président de la Commission des droits de l'homme. Il revient sur l'urgence de cette décision.
Il y a la guerre en Ukraine et l'armée russe se sert de ces symboles comme signe de l'agression. Cela a une force mentale très puissante. V et Z sont les signes des assassins.
Ces nouvelles lois prévoient des amendes conséquentes, jusqu'à 3 200 € en Lettonie. Mais punir les contrevenants peut se révéler compliqué. En Lituanie, deux enquêtes sont en cours. Lorsque la Russie avait annexé la Crimée en 2014, le symbole de ce rattachement avait été les petits hommes verts, ces militaires sans signe distinctif. En Russie, on les avait appelés par un euphémisme les gens polis. Un monument a été érigé à leur gloire en Crimée. Leur image, censée glorifier l'armée russe, n'avait été utilisée qu'à des fins militaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les lettres Z et V, comme le relève Nerius Maliukevičius.
Tout est destiné à un public national. Toutes les ressources de l'État sont mises à contribution pour cette campagne. Il faut voir comment elle est menée. Ce sont aussi dans la société civile les employés d'une entreprise qui se réunissent en formant un Z. On le voit aussi même dans les jardins d'enfants.
En 2014, Poutine était porté au nu. Aujourd'hui, ces lettres mettent Poutine dans l'embarras. Pour le chercheur,
sa vision ne correspond pas à ce qui se passe dans la réalité. Il parle d'opérations spéciales. On assiste à la plus réelle des guerres. Il se bat pour la dénazification et il se conduit lui-même comme un nazi.
Les interrogations autour de ces nouveaux symboles de l'agression militaire russe posent la question des monuments soviétiques encore présents dans les pays baltes. À Vilnius, les statues soviétiques du Pont Vert avaient été retirées en 2015. Il y a quelques mois, la statue d'un écrivain lituanien qui avait collaboré avec les soviétiques a été déboulonnée. Le député lituanien Robertas Šarknickas a pris part à la rédaction de la loi pour interdire le Z et le V comme symbole. Pour lui, la question des monuments se pose désormais.
Il faudrait les liquider, les déboulonner. Il en reste encore 150 en Lituanie. Ils représentent toujours une forme d'influence, même si certains les considèrent comme des symboles de la mémoire historique. Mais quand on connaît l'histoire, on connaît les exactions commises pendant la guerre par les forces qui les ont érigées. Et l'histoire se répète en Ukraine.
Dans les pays baltes, on attend avec anxiété le 9 mai, jour de la victoire fêtée par les Russes contre l'Allemagne nazie en 1945. Les populations russophones des pays baltes, adhérant à la politique de Poutine, exhiberont-elles ces lettres dans leur rassemblement?
Et alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son troisième mois, la diaspora tente d'apporter son soutien au pays, aux civils et aux combattants. À Béthune, dans le nord de la France, Lise Verbeck a rencontré Michel Gershwin et Tatiana Gershovitch, un couple de musiciens dont la seule arme est la musique.
Dans la maison du couple, la musique est présente partout. Sur les étagères, des dizaines et des dizaines de CD sont alignés. Accrochés à un lustre, des notes de musique en papier coloré. Et puis il y a ce grand piano dans une pièce rien qu'à lui, entre la cuisine et la salle à manger. Michel Gershwin est né à Kharkiv, en Ukraine, et a vécu ensuite en Biélorussie. Tatiana Gershovitch, elle, est née dans le sud de la Russie et a habité en Ukraine. Ils se sont tous les deux rencontrés à Moscou et ils ont quitté l'URSS à 29 ans pour s'installer et travailler en France en 1991, 3 mois avant la chute de l'Union soviétique.
Bien sûr, après ce qui s'est passé, évidemment, il n'y avait plus de retour. Il n'y avait plus de retour parce que mon mari, il était toujours. Il n'avait pas du tout voulu revenir. Il avait un instinct et les connaissances qui, malheureusement, maintenant, je vois qu'il avait raison pendant plusieurs années.
Ils ont été naturalisés français tous les deux. Tatiana est professeure au conservatoire de musique de Béthune et Michel parcourt le monde avec son violon pour donner des concerts, beaucoup en Allemagne, où il a d'ailleurs joué récemment au profit de l'Ukraine.
Évidemment, première réaction, c'est toujours organiser les concerts au profit. C'est ce qu'on fait toujours, les musiciens, on fait depuis quand on prend jouer un peu les instruments. La force de la musique, elle est incroyable. Et je voudrais que ça soit aussi pas un concert, mais ça soit une action, comme on fait en Allemagne, pour aider certaines institutions. Par exemple, en Allemagne, on aidait à la maison d'orphelinat à Ujgorod, c'est la ville de l'ouest de l'Ukraine, où on a envoyé l'argent direct après le concert.
Depuis le début de la guerre, le couple aide donc comme il peut. Tatiana a également fait la traduction pour des familles ukrainiennes qui sont arrivées dans leur secteur récemment. Tous les jours, elle s'informe sur l'évolution de la situation.
Je suis crucifiée vraiment par cette situation. Je connais pas mal de monde de Mariupol. Alors ça, c'est vraiment la drame énorme. Après, on a eu plusieurs appels. Mais des gens de Kharkov, quand ils étaient bombardés, on est même les messages, quand ils hurlent, ils disent on est bombardés comme des simples animaux, je ne sais pas ce que c'est. Et parfois, quand je regarde le télé russe, parfois, ça me fait des nausées parce que c'est complètement à l'inverse ce qu'ils n'ont sait. Et les pauvres peuples, ils sont nourris par la désinformation, mais massive.
Et la meilleure amie de la pianiste et journaliste indépendante en Russie.
Elle a parlé de la situation vraiment dramatique, minimum à partir de l'annexion de Crimée. Et en ce moment, quand c'est elle qui m'a appelé, parce que je n'ai pas osé. J'ai dit, tu n'es pas peur de parler comme ça, tu sais, avec moi. Elle a dit, je ne peur de rien, tu sais, pour moi, c'est le dernier privilège de, au moins, de te dire ce que je pense.
Michel, lui, reste en contact avec des collègues de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, qu'il a rencontré il y a quelques années pour un concert.
Il y a quelques jours, ils ont fait un requiem de Mozart à Lviv. Et pendant les répétitions, il y avait une sirène, ils se sont cachés, puis les sirènes, c'était donc c'est arrêté, ils ont continué. Ça me rappelle un peu l'histoire qui s'est passée pendant la 12e guerre à Leningrad. Vous savez que la création de la 7e symphonie de Shostakovich, c'était à Leningrad les gens qui avaient faim, qui avaient plus de force de bouger. Pendant le blocus, les gens s'est réunis et ils ont fait cette création, la première création de la 7e symphonie de Shostakovich. Et tout le monde a vu que la vie... a attendu que la vie existe toujours là-bas.
Tu te souviens, Brahms ?
Bon, le début, oui.
Tous les deux sont convaincus du pouvoir de la musique et de son importance capitale dans ces moments difficiles.
Comme je dis, la vie sans la musique, c'est pas la vie, donc c'est la mort. Donc c'est surtout quand on continue à faire quelque chose qui vient de notre cœur et de notre profession, évidemment, ça aide à vraiment faire revivre des meilleures choses qui existent dans la vie.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Donatien Cahu. Retrouvez-nous sur notre site. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées. À demain.